bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. Donald Trump appelle le New York Times à révéler le nom du lâche. Lors d'un meeting dans le Montana, il a invoqué la sécurité nationale après la publication d'une tribune anonyme à son encontre. Nous étions dans ce meeting. Dans cette édition encore, nous évoquerons la police de sécurité nationale, la police du quotidien en France. Pour son discours de rentrée, Gérard Collomb en a vanté les mérites. Un bilan bien trop prématuré, répond un chercheur. Et puis l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie semble s'éloigner un peu plus. Deux sondages donnent le non au référendum de novembre largement gagnant. Mais Laurent Wauquiez, président du Parti Les Républicains, est en visite sur l'archipel cette semaine et il pourrait faire ressurgir la colère des indépendantistes. Et d'abord donc ce climat de suspicion et de paranoïa à la Maison-Blanche. Depuis la tribune d'un haut fonctionnaire anonyme publié il y a 24 heures dans le New York Times contre le comportement erratique de Donald Trump. Lors d'un meeting dans le Montana hier soir, le président américain a répondu. Il a une nouvelle fois appelé le journal à révéler le nom de ce lâche, dit-il, qui a rédigé le texte. Grégory Phillips, notre correspondant, était à ce meeting.
Devant environ 10 000 de ses supporters réunis à Billings dans le Montana, Donald Trump déroule son discours habituel. Make America Great Again, les bons résultats économiques, et il apporte son soutien au candidat républicain qui dans 2 mois se présentera au Sénat. Mais la tribune du New York Times est évidemment dans tous les esprits. Des proches du président ont décrit un Donald Trump absolument furieux après cette trahison. Et pour la deuxième fois en 24 heures, Trump demande au quotidien new-yorkais de dévoiler l'identité de l'auteur de cette chronique.
Nobody knows who the hell he is or she, although they put he, but probably that's a little disguise that means it's she.
Personne ne sait qui il est, ou elle d'ailleurs. Peut-être qu'ils ont écrit « il » pour masquer son identité et qu'en fait c'est une femme. Mais au nom de notre sûreté nationale, le New York Times devrait dévoiler son nom et les reporters devraient enquêter et trouver qui c'est. Ça, ce serait un scoop. Ces gens non élus qui travaillent dans l'ombre de l'État se moquent des électeurs et essayent d'appliquer leur propre programme. C'est un vrai danger pour la démocratie.
À la tribune, Trump affirme que cet éditorial va se retourner contre ses auteurs et que ça lui profitera à lui. Il ne reste plus que 2 mois avant les mid-termes et le président va dans les prochaines semaines multiplier les déplacements et les meetings pour galvaniser ses supporters.
Aux États-Unis, toujours plus d'une vingtaine de prisons d'État ont fermé leurs portes cette semaine après la mort suspecte de plusieurs gardiens. Jackie Orto fait partie du comité de soutien au prisonnier Mumia Abu Jamal, condamné à mort aux États-Unis depuis 1982. Et il y a quelques jours, il était en Pennsylvanie, Jackie Orto, dubitatif face à ce blocage des prisons.
Il y a une grève dans les prisons de 3-4 États là, sur leurs conditions carcérales. Et la Pennsylvanie, donc en tête, ils ont décidé, la semaine dernière quand on y était, de fermer les prisons. Plus de visites, plus de sorties de cellules, des prisonniers, etc. jusqu'à nouvel ordre. L'argument officiel, c'est qu'un certain nombre de matons dans ces différents États ont été atteints d'une maladie dont les effets secondaires se ressemblaient tous, qui ressemblait à un début d'empoisonnement, dont la responsabilité incomberait à des correspondants de prisonniers qui envoient de la drogue via les courriers et à l'ouverture des courriers qui sont lus, etc. Enfin, c'est la première fois dont on en parlait d'une histoire qui ressemble. On sait pas s'il faut y croire, quoi. C'est tellement grossier, quoi. Comme ça, c'est tombé au moment où les prisonniers, il y avait une certaine rébellion dans un grand nombre de prisons là, de 3 ou 4 États américains. Derrière, ils inventent cette histoire-là, elle est quand même grossière. Donc la Mumia, même si on avait voulu aller le voir, on n'aurait pas pu y aller. Notre droit de visite n'aurait pas été accordé.
Jackie Orto avec Nadine Epstein. Les présidents iraniens, russes et turcs se retrouvent pour un sommet aujourd'hui à Téhéran. Ils doivent décider de soutenir ou non une offensive sur la province syrienne d'Idlib, dernier grand bastion djihadiste et rebelle de Syrie. La communauté internationale y redoute un désastre humanitaire imminent. Un nouveau manifestant est mort en Irak hier dans la contestation sociale qui touche la province pétrolière du sud Bassora. Des bâtiments publics et des sièges de partis ont été incendiés. Tôt ce matin, par ailleurs, 3 obus se sont abattus sur la zone verte à Bagdad où siègent les autorités sans faire de victimes. Et puis en bref, encore le député brésilien d'extrême droite Jair Bolsonaro, candidat désormais favori à la présidentielle du Brésil, a été poignardé. C'était hier soir alors qu'il faisait campagne. Son état ce matin est stable. Son agresseur, qui a été arrêté par la police, dit avoir agi sur l'ordre de Dieu. Nous retrouvons notre correspondante au Brésil, Anne Vigna, dans le journal de 7 heures. Avant cela, la suite de l'actualité en France et cette annonce. La police de sécurité du quotidien se déploie dès ce mois de septembre. Elle avait soulevé beaucoup d'interrogations au printemps dernier. C'est l'un des grands chantiers sécuritaires d'Emmanuel Macron. D'ici 2 ans donc et à partir d'aujourd'hui, 60 quartiers difficiles, dits de reconquête républicaine, en seront dotés. De quoi satisfaire dès maintenant le ministre de l'Intérieur, Alexandra Dubucheron.
C'était lors de sa conférence de presse de rentrée, Gérard Collomb présente les chiffres de l'année 2018 en matière de délinquance avant d'évoquer sa police de sécurité du quotidien.
Elle a d'ores et déjà conduit au renforcement du dialogue avec les élus locaux comme avec la population, et cela n'est pas totalement étranger, je pense, aux résultats positifs que je vous ai indiqué.
Sauf que le véritable coup d'envoi de la PSQ, c'est là, en septembre. Difficile donc de faire un bilan, tempère Mathieu Zagrodzki, chercheur associé au Centre de Recherche Sociologique sur le Droit et les Institutions Pénales.
La conclusion est un petit peu hâtive, parce que les quelques expérimentations qui y sont liées n'ont pas été lancées il y a très très longtemps, et les évaluations censées justement accompagner sa mise en œuvre n'ont pas véritablement débuté non plus.
Et cette première évaluation du dispositif n'est pas attendu avant 6 mois, au moins. Il est même trop tôt pour l'instant pour dire à quoi ressemblera ce dispositif, d'autant que chaque PSQ sera propre à son quartier.
On a dit aux polices et aux gendarmeries à l'échelon départemental ou infradépartemental d'imaginer un meilleur recueil des attentes de la population, une meilleure prise en compte des questions de petite délinquance et d'incivilité, et également faire en sorte que des partenaires extérieurs, comme la sécurité privée par exemple, les polices municipales, soient partie intégrante de la conception des politiques locales de sécurité.
Pour cela, des conventions doivent être signées, négociées entre les mairies et les préfectures, négociations parfois difficiles pour des raisons budgétaires.
La première vague de cette police de sécurité du quotidien concerne 15 quartiers à Toulouse, Montpellier, Bordeaux ou encore à Pau. 1 an de prison avec sursis, voici ce qu'a requis le procureur à l'encontre de Booba et Kaaris. Les deux rappeurs français étaient jugés hier avec leurs acolytes pour une rixe à l'aéroport d'Orly. C'était le 1er août dernier. Le jugement, lui, est attendu le 9 octobre. En pré-campagne pour les européennes, Emmanuel Macron reçoit Angela Merkel aujourd'hui. Ils vont se retrouver à Marseille pour consolider leur arc progressiste face aux nationalistes qui progressent toujours en Europe et jusqu'au cœur du gouvernement allemand. Rencontre attendue donc aujourd'hui, vendredi. Laurent Wauquiez, lui, chef de file du parti Les Républicains, s'envole aujourd'hui pour la Nouvelle-Calédonie. Il doit y passer 1 semaine, à 2 mois d'un référendum très important dans l'archipel sur l'accession possible à l'indépendance. Et selon 2 récents sondages, le non devrait largement l'emporter en novembre prochain, Stéphane Robert.
Ces 2 enquêtes réalisées au cours de l'été et publiées en début de semaine révèlent, pour l'une d'entre elles, que 63% des personnes interrogées, pour l'autre, que 69 à 75% des électeurs sont susceptibles de voter non à l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie. Il n'y a donc quasiment pas de suspense. Ce petit bout de France à l'autre bout du monde va rester dans le giron de la République. Et ce n'est pas vraiment une surprise, car parmi les 280 000 habitants sur place, 40% seulement sont d'origine kanak. Pour le reste, il y a beaucoup de métros, des Français expatriés, mais aussi tout un tas d'autres communautés, des Vietnamiens, des Indonésiens, des Tahitiens, des Wallisiens. Le camp kanak, seul susceptible de gonfler le vote indépendantiste, n'est donc pas majoritaire, mais en plus, il est divisé entre d'une part les anciens qui se sont battus contre ceux qu'ils appelaient les colons français dans les années 80, et la jeunesse kanak, qui ne comprend pas bien pourquoi il faudrait aujourd'hui se séparer de la France, voire qui craint ce saut dans l'inconnu que serait l'accession à l'indépendance. Dès lors, il n'y aura pas de surprise, la Nouvelle-Calédonie restera française. Mais la crainte, c'est que la frustration des indépendantistes ne dégénère en colère et en violence, comme il y a 30 ans. C'est la raison pour laquelle certains redoutent un peu la visite de Laurent Wauquiez à partir d'aujourd'hui et l'invitent à ne pas emboîter le pas de certains représentants du parti Les Républicains sur place, qui déclarent vouloir donner une bonne leçon aux indépendantistes et prennent le risque d'aiguiser les tensions.
Et nous reparlerons de la Nouvelle-Calédonie ce soir sur France Culture avec le grand reportage de 17 à 18 heures dédié à la justice coutumière pour les Kanaks, une branche du droit français dérivée des coutumes locales. Burt Reynolds est mort hier à l'âge de 82 ans, vedette d'Hollywood dans les années 70 et 80, acteur révélé notamment avec le film Délivrance en 72, puis Boogie Nights en 1997. Burt Reynolds donc est mort à l'âge de 82 ans. La météo de ce vendredi, elle sera marquée par des averses sur le relief, tandis que le soleil devrait s'imposer sur le pourtour méditerranéen pour gagner ensuite tout le territoire cet après-midi. Les températures comptaient 15 degrés ce matin à Lille, 17 à Brest, Besançon, 18 à Paris, 25 près de la Méditerranée.